Et on continue de parler football et Ligue 1 justement, mais sous l'angle financier, la Ligue 1 qui voit de plus en plus d'investisseurs étrangers prendre le contrôle de ses clubs. Dernier exemple en date avec Nice, la DNACG, le gendarme du foot français, a validé il y a quelques jours son rachat par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe. Il s'est loin d'être un cas isolé. On en parle avec notre invité Vladimir Andreev. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président de l'Observatoire de l'économie du sport. Le rachat de l'OGC Nice par un milliardaire anglais, c'est une tendance, c'est révélateur en tout cas d'une tendance lourde dans le football français ?
Oui, tout à fait. D'abord parce que ça n'est pas le premier club. Avant Nice, on a eu Monaco, on a eu Marseille, on a eu Lille, on a eu le Paris Saint-Germain. La liste n'est pas complète. Donc c'est une tendance lourde et qui signifie que la Ligue 1 est en train de devenir attractive pour les capitaux étrangers, ce qui est un phénomène nouveau en France, mais pas nouveau au niveau européen, si je puis dire.
Alors pourquoi est-ce que le championnat français, qui a priori n'est pas le plus attractif des championnats européens, attire les investisseurs étrangers ?
C'est une bonne question. Il y a deux réponses. La première, c'est que les meilleures places sont déjà prises, si je puis dire. Les meilleures places étant celles de la English Premier League, de la Ligue anglaise, dans laquelle il y a actuellement, je crois, 17 sur 20 clubs qui sont en propriété étrangère. Donc il n'y a plus que 3 places. C'est pas nécessairement les meilleurs. Chelsea, tout ça, c'est déjà pris. Et puis d'un autre côté, il y a une autre ligue très intéressante, qui est la Ligue allemande, qui attire le plus de spectateurs aujourd'hui en Europe, qui s'appelle la Bundesliga, où il y a une disposition statutaire qui interdit à un investisseur quelconque, étranger ou allemand, mais s'il est un investisseur commercial, il ne peut pas prendre plus que 49,9% des actions, ou des parts de société, et donc il ne peut pas avoir la majorité, il ne peut donc pas décider. C'est le club allemand qui continue à décider. Et ça bloque pour l'instant les investisseurs étrangers dans la Bundesliga.
Alors, vous le disiez, le cas de l'OGC Nice n'est pas un cas unique, hein, loin s'en faut. On trouve également des investisseurs russes, des investisseurs américains, à l'OM notamment, à Monaco. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de candidat français ? En tout cas, il n'apparaît pas suffisamment de candidats français pour s'intéresser à de tels investissements ?
Ah ben, parce que d'abord, les Français s'intéressent peut-être à d'autres ligues, il faut se poser la question, et il y a des réponses. Hein. Il y a des clubs étrangers qui sont achetés par des capitaux français, mais pas beaucoup pour l'instant. C'est une tendance générale. Donc, si vous voulez, ce qui est un peu aberrant, c'est de considérer aujourd'hui qu'il y a eu un championnat de France. Bon, il y a bien un championnat de France, mais il est joué par des équipes en partie non françaises. Si l'on s'intéresse au capital, c'est ce qu'on vient de faire, mais si on s'intéresse, et ça c'est une tendance plus lourde et plus longue dans le temps, si on s'intéresse à la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a très peu d'équipes en Ligue 1 ou en English Premier League qui n'alignent que des joueurs de la nationalité du pays. C'est même quasiment jamais le cas. Il y a toujours plusieurs joueurs étrangers. Le coach n'est pas fréquemment... en France, on en a pas mal des coachs français, mais en English Premier League, la plupart ne sont pas anglais. Donc, il y a une transformation des grands clubs de football en ce que j'appellerais des firmes multinationales, comme on peut en observer dans beaucoup d'autres industries en dehors du sport.
Le constat que vous dressez, c'est celui finalement globalisant, assez froid du sport professionnel, de sa logique de développement ?
Oui, oui. Un des ouvrages que j'ai écrit en français s'intitule « La mondialisation économique du sport ». Eh bien, le football est le prototype, le football professionnel, pardon, de très haut niveau, est le prototype de cette mondialisation, pour le dire comme ça, ou de la multinationalisation des sociétés, des entreprises de football.
Le cas de Jim Ratcliffe, on se met d'accord,
il oui, s'agit pas... par ailleurs est propriétaire d'Ineos, c'est-à-dire grand investisseur dans le Tour de France aussi.
Oui, il est propriétaire effectivement d'Ineos, qui est sponsor principal de l'équipe d'Egan Bernal, qui a gagné le dernier Tour de France. Pour revenir justement à lui, mais pas uniquement, on est d'accord qu'on a affaire à des investisseurs et non pas à des mécènes, donc à des personnes qui attendent un retour sur investissement.
Parfaitement exact sur la distinction entre ils ont l'image et puis la propriété. L'image, c'est le sponsorisme. Les sponsors étrangers, notamment dans le football européen et français, c'est très vieux. Hein, ça remonte à 20 ans ou 30 ans pour les premiers. Donc ça n'est pas tout à fait nouveau. Par contre, la propriété des clubs, c'est en effet plus nouveau. Ça date d'une dizaine d'années, douzaine d'années en English Premier League et puis de 4-5 ans dans la Ligue française. Alors la bonne question derrière ça que vous posez, c'est est-ce que c'est pour faire de l'argent ? Alors le sponsoring, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour montrer son image. Hein, Ineos sponsorise le Tour de France pour être vu par des milliers, millions de spectateurs et peut-être même des milliards de téléspectateurs. Donc l'objectif, c'est pas gagner de l'argent. On donne de l'argent pour être vu. En revanche, dans la propriété des clubs, la bonne question, c'est en effet, est-ce qu'ils investissent pour gagner de l'argent ? Eh bien, malheureusement, la réponse est pas très positive. La plupart des grands clubs de football sont en déficit. Et c'est même parce qu'ils sont en déficit que l'UEFA, c'est-à-dire l'instance dirigeante du football européen, a introduit depuis 2010 le fair play financier, qui est une interdiction de dépasser un certain montant de déficit par an. Et ceci parce que beaucoup de clubs, je ne dis pas tous, mais au début des années 2010, deux tiers des clubs de première division en Europe faisaient des déficits. Avec le fair play financier, cette proportion a diminué, mais il y en a encore environ 40% en déficit. Alors, quand on rachète un club, comme M. Radcliffe, il va devoir injecter de l'argent, ça c'est la première chose qu'il a fait. M. Abramovich, dans Chelsea, a investi 500 millions d'euros pour combler les déficits, etc., et renflouer le club. Et pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il gagne encore de l'argent.
L'avenir nous le dira, on l'observera. En tout cas, merci Vladimir Andreev d'avoir répondu à l'invitation des RFI. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris, un Panthéon-Sorbonne et président de l'Observatoire de l'économie du sport.